J'ai le désir ce matin de partager avec vous sur un thème qui nous concerne tous. Le besoin que nous avons tous, chacun les uns pour les autres, de nous sentir en sécurité. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que nous n'avons pas tous, tout au long de notre vie, dès la plus tendre enfance, eu ce désir d'être en sécurité? Alors j'aimerais partager avec vous deux textes où Dieu prévoit en Israël des espaces de sécurité pour ceux qui sont responsables de la mort de quelqu'un. On va se dire, est-ce que je suis responsable de la mort de quelqu'un? Humainement, non. Et humainement, oui. Parce que je suis responsable de la mort de Christ. Du fait de mon péché, de ma désobéissance, je suis responsable de cette mort. Or, si j'en suis responsable, Dieu en Christ a prévu qu'il soit mon espace de sécurité. Qu'en lui se trouve ma sécurité. Que lui soit mon refuge. Alors j'aimerais partir de la manière dont Dieu a essayé d'inculquer dans le peuple d'Israël cette pensée que même si tu es un meurtrier, même si tu es responsable de la mort de quelqu'un, il y a un espace de sécurité pour toi. Et cet espace de sécurité se trouve dans le Deutéronome au chapitre 4, verset 41, et dans Josué, chapitre 20, verset 1. On va dire d'abord trois versets du Deutéronome, 4, 41. « Alors Moïse choisit trois villes de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. » On est un peu concernés. Afin qu'elle servisse de refuge au meurtrier qui aurait involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi et afin qu'il pût sauver sa vie en s'enfuyant dans une de ses villes. C'était Betser dans le désert, dans la plaine, chez les Rubénites, Ramoth en Galade, chez les Gadites, et Golan en Basan, chez les Manassites. C'est le premier texte qui parle des villes de refuge. Moi j'aime beaucoup ce texte-là. Avec ce qu'il porte derrière de la pensée de Dieu vis-à-vis de tout homme, toute femme, qui serait condamné, mais qui aurait la possibilité de trouver un refuge et d'être en sécurité. Le deuxième texte, il est donné quelque temps après, puisqu'on était dans le Deutéronome, c'est-à-dire quand le peuple d'Israël se trouve devant la terre promise, cette nouvelle génération. J'écoutais avec attention le témoignage de Christine qui a dit « Oh, 40 ans avant que je puisse franchir le Jourdain et découvrir ma terre promise. » Ouais, il y a parfois des temps de désert. Est-ce qu'ils ont été inutiles pour Israël? Je ne crois pas. Spirituellement, cela veut dire que ce peuple qui était dans la désobéissance et dans l'infidélité, ce peuple qui ne croyait pas aux promesses de Dieu, tout à coup s'est représenté devant la terre promise et là, ils sont entrés. Mais Dieu s'est révélé à ce peuple lorsqu'il se présente une seconde fois. 40 ans dans le désert, ou un sentiment de désert. Mais quelle joie d'entrer dans la terre promise. Alléluia. Alors Josué, quelque temps après, dit, entend la parole de Dieu, qui lui dit, parle aux enfants d'Israël, Josué 20:1, et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné, par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention, elles vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Écoutez bien ce qu'il est dit, parce qu'on pourrait se dire, c'est purement une affaire, je dirais, cultuelle, religieuse d'Israël. Mais quand on lit attentivement les textes de l'Ancien Testament, on s'aperçoit que c'est une préfiguration de ce que Christ est pour nous. Il est dit ensuite, « Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, quand le souverain sacrificateur mourra, eh bien, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. » Symboliquement, c'est quelque chose de fort. Quand le souverain sacrificateur mourra, il retournera, il reprendra sa vie, il vivra à nouveau libre. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kiryat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Betser, comme on l'a vu, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galad, dans la tribu de Gad, et Golan en Bazan, dans la tribu de Manassé. La parole de Dieu et l'Ancien Testament sont en grande partie une préfiguration de ce que Christ accomplira. On dit souvent que Christ est venu pour accomplir la loi. Or, je dirais l'Ancien Testament, la loi et tout ce qu'il contient, je dirais que la manière dont est construit le culte juif est une préfiguration de ce que Christ est et que ce Christ fera. On a beaucoup de prédicateurs qui ont parlé du tabernacle, de ce qu'il représente, la manière dont le temple a été construit et le chemin qu'il faut emprunter en passant par l'autel des sacrifices pour aller au plus loin jusqu'au lieu très saint. On pense au costume des prêtres, on pense à plein de détails qui sont donnés et quand on les regarde avec attention, on s'aperçoit qu'ils parlent de cette question essentielle, quel est le plan de salut de Dieu pour l'homme ? Et tout le culte d'Israël n'était tourné que vers cette orientation. Comment l'homme peut-il retrouver une relation avec son Dieu? Comment le Fils peut-il retrouver le Père? Comment le péché et le problème qu'il pose dans cette relation peut-il être résolu? Quand on lit la parole de Dieu, et j'entendais dans ce témoignage, j'ai commencé à dévorer la Bible. Que le Nouveau Testament? Que les Évangiles? Ou est-ce que nous plongeons nos regards, là aussi, dans toute la parole de Dieu, et notamment l'Ancien Testament, qui nous parle de Christ de manière très concrète, avec des images très fortes? Ici, il est parlé des villes de refuge. Tout à l'heure, nous avons entendu cette image que nous connaissons comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Est-ce que nous avons besoin, nous aussi, de sécurité? Est-ce que nous avons besoin d'un refuge dans lequel nous pouvons nous confier, où nous pouvons nous sentir en protection totale? Est-ce que Dieu, est-ce que Christ est, pour nous aujourd'hui, cet espace de refuge? Hein? Le principe du refuge, c'est de se sentir protégé. C'est un besoin fondamental dans la vie de l'homme. Hein, l'enfant, dès qu'il est petit, en principe l'enfant est petit, mais dans sa jeunesse et dans son enfance, il a besoin à toutes les étapes de sa vie de se sentir en sécurité. Là où les adultes portent des fragilités, des souffrances, se trouvent en difficulté par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres, bien souvent. C'est quand cette sécurité n'a pas été posée dans leur vie au préalable. Combien devons-nous guérir d'espace dans notre vie quand cette sécurité n'a pas été posée? Combien cela complique parfois notre relation avec nous-mêmes, avec nos proches, avec nos enfants même. La difficulté de transmettre un sentiment de sécurité quand soi-même, nous ne l'avons pas connu. La difficulté dans l'Église, la difficulté aussi dans la relation à Dieu. Comment faire confiance en un père quand mon père n'a pas forcément été un garant de sécurité, un refuge, une stabilité. On pourrait penser que le jardin d'Éden était un refuge. Pourtant, ce serait une erreur. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait Dieu. Et ce n'est pas le jardin d'Éden qui nous manque en termes de sécurité. C'est Dieu. Notre sécurité parfaite se trouve en Dieu. On trouve la notion de ces villes de refuge dans la Bible, mais ce n'est pas des choses qui sont nouvelles. C'était dans l'Ancien Testament, mais au fil des siècles, ce sont des choses qu'on a retrouvées. Récemment, en 95, il y a un écrivain qui disait « Et si nous construisions, si nous imaginions en France des villes qui soient des refuges pour les écrivains étrangers qui sont en danger ?» En ce moment, on parle beaucoup des migrants. Est-ce que nos pays, nos villes sont des espaces de refuge ? Les stoïciens grecs, Cicéron, Saint Paul, la tradition médiévale, jusqu'au siècle des Lumières, se sont tous penchés sur cette question. Et si nous avions des espaces de refuge pour ceux qui sont en danger ? Et puis, on a, au niveau mondial, déterminé, notamment avec la loi, le droit de refuge, d'accueil, en le limitant, bien évidemment. Quelqu'un qui vient se réfugier en France ne doit pas s'attendre à avoir des bénéfices de cela. Mais on l'accueille pour qu'il soit en sécurité. Ça limite un petit peu le bien-être ou ce que l'on peut tirer là aussi comme bénéfice de notre sécurité. Dans l'Ancien Testament, il y a un espace qui était un espace de sécurité, c'était l'autel, l'autel des sacrifices. Vous vous rappelez ce lien qu'il y avait entre l'autel des sacrifices et le fait que si quelqu'un était en danger, il pouvait aller entrer soit dans le tabernacle, soit dans le temple et saisir les cornes qu'il y avait à chaque coin de l'autel des sacrifices. Et quand il était là, eh bien, on ne pouvait plus y toucher. Sauf que là aussi, c'était un espace de refuge qui pouvait être transgressé. On a cet épisode-là dans le premier livre des Rois, au chapitre 2, verset 29, où il y a Salomon qui a un ancien chef de l'armée, je crois que c'est Joab, avec lequel il était en désaccord. Et Joab avait accompli des actes, contraires à la pensée royale. Et donc, à un moment donné, Salomon a fait peser sur lui le danger d'un assassinat. Alors il est parti se réfugier près de l'autel, il a tenu l'autel en se disant « c'est un lieu saint, personne ne me touchera ». Et puis quand on a rapporté ça à Salomon, il y a une personne qui s'appelait Benaïa qui a dit « oui, je suis allé le voir, il est bien en train de tenir l'autel, la corne de l'autel ». Il dit « bah si vous voulez me tuer, il n'y a que vous qui pouvez le faire, mais voilà ». La responsabilité reposera sur vos têtes. Alors Salomon a dit à Benaïa, vas-y, puisqu'il en a parlé ainsi, tue-le. Espace de sécurité, pas tout à fait parfait. Où sont les espaces de sécurité ? Quel est l'endroit où je peux me sentir en protection totale ? Est-ce que je me réfugie dans le travail ? Ah, quand je travaille, je me sens bien, en sécurité, tout le reste, je dirais, n'importe plus. Est-ce que c'est dans l'alcool, les médicaments, les achats compulsifs, toutes les dépendances ? Est-ce que c'est dans le silence? Ah, si je parle à personne, je cours aucun risque. L'absence de relation. Ah. Combien de conjoints s'enferment dans le silence avec le sentiment que là, ils courent aucun risque. Ils vont pas abîmer ni la relation conjugale, ni familiale, ni... Est-ce que je me réfugie dans mes capacités physiques ou intellectuelles? Ah, c'est mon espace. Si je comprends, combien d'hommes et de femmes ai-je entendu tout au long de ma vie chrétienne dire « Moi, je ne crois que dans ce que je comprends et que je trouve acceptable. » Rationnellement parlant, ça, c'est ma sécurité. Ah, quand je comprends les choses, oui, mais va donc comprendre l'éternité. Va donc comprendre la dimension de Dieu, la personne de Dieu par ta raison, ton intelligence. Oui, mais c'est là où je me sens en sécurité. Ah. Vous me direz, oui, bon, tout ça, ça concerne les non-chrétiens. Il y a parfois, je me dis, dans l'Église, est-ce qu'il n'y a pas des manières de vivre notre foi qui sont des manières qui nous sécurisent? Je pense aux dons spirituels dans nos bonnes églises pentecôtistes. Est-ce que les dons spirituels, c'est ce qui nous sécurise? Oh, Dieu nous sécurise bien, mais ah, qu'est-ce qu'on est rassuré quand il y a une parole prophétique, quand il y a ceci, quand il y a cela. Et puis on s'enferme dans cette sécurité, tout ce qui reste autour. Ça peut être des fausses sécurités spirituelles. Quelles sont les conceptions, les cultures d'église qui nous sécurisent? J'en parlais avec les personnes qui prennent le baptême, mais avec d'autres personnes dernièrement. Ah, combien ma tradition d'église, le chemin dans lequel Dieu a conduit mon mouvement, quelque part me met en sécurité. En clair, qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ma vie? Parce que la vraie sécurité, le vrai refuge, c'est lorsque je me trouve en Dieu et les autres espaces ne sont que des paradis artificiels, rien d'autre. Qu'est-ce qui est mon refuge aujourd'hui? Le psaume 91 dit, prononce ces mots que nous connaissons tous, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Où est-ce que j'habite? Où est-ce que je suis assis? Rappelez-vous le psaume 1, celui qui est assis à tel endroit. Où est-ce que je suis assis dans ma vie? Quelles sont les choses qui me donnent de l'assurance et un sentiment de sécurité? Ésaïe parlera en disant du peuple d'Israël, « Car tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le pauvre dans la détresse, un abri contre la pluie battante, un ombrage contre la chaleur. » Car le souffle des tyrans est comme la pluie battant un mur. Quand la vie et les circonstances de la vie sont difficiles, est-ce que Dieu est vraiment mon refuge? Dans quel état est mon cœur, mon âme, mes émotions dans ces moments-là? Est-ce que, comme plus tard, Ésaïe dira d'Israël, ils sont en marche et descendent en Égypte sans me consulter pour chercher un refuge auprès du Pharaon. Où allons-nous chercher du refuge quand nos situations sont difficiles? J'aime bien cette notion de ville, de refuge. Et ce qui m'intéresse, tu arrives à passer le document? Vous allez voir, c'est très intéressant comment Dieu a incité Moïse et Josué à placer les villes de refuge en Israël. Ça dit quelque chose aussi du plan de salut de Dieu. Voilà. Alors, je ne sais pas si on arrive à voir juste le document, non? C'est un peu difficile. Vous avez des flèches rouges? Je ne sais pas si mon doigt arrive à monter jusque là-haut. Non, il n'y arrive pas. Vous avez trois villes qui sont à l'est du Jourdain, c'est-à-dire à l'Orient. Moi, ça me fait toujours sourire quand on dit qu'il y a des villes de refuge à l'Orient. Ah ouais, mais est-ce que l'Église à l'Orient est une ville de refuge pour ceux qui sont sous la peine d'une condamnation de mort à cause du péché? Est-ce que l'Église est une ville de refuge? On dit, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Puisque les portes s'ouvrent dans le bon sens, vers l'intérieur, même si ce n'est pas réglementaire. Hein, Michel ? Mais c'est une église devrait être une église. Est-ce que ma vie est un espace de refuge pour ceux qui sont autour de moi à Lorient? Ce qui est intéressant dans ce qui se passe ici, c'est que Moïse décide d'abord dans le Deutéronome d'installer trois villes de refuge. Les trois sont confiées aux Lévites, c'est-à-dire à ceux qui sont responsables de la dimension religieuse et spirituelle du peuple d'Israël, on est bien d'accord. 40 villes vous êtes données, et sur ces 40 villes, vous en aurez 3. Et il parle de ces 3 villes qui sont Golan, en haut, la deuxième flèche à partir du bas, Ramoth et Betser. C'est-à-dire à la limite du territoire d'Israël sur l'Orient, sur l'Est. Ça veut dire que quelque part, Dieu fait en sorte que, à l'entrée de la terre promise, ou au bord de la terre promise, il y a des villes de refuge. C'est-à-dire que l'Église doit être aussi, ou le peuple de Dieu, doit être, à la limite, là aussi, pour accueillir ceux qui sont de l'étranger et ceux qui sont du dedans. Et les 3 villes de l'Est. Et Josué, quand il rentre dans la terre promise, Dieu lui dit, bien, tu en mets aussi 3 à l'intérieur. Alors vous savez ce qu'il a dit Josué, il a dit, enfin Seigneur, sois raisonnable. Qu'on ait 3 villes de refuge à la limite entre nous et les étrangers, j'irai à ceux qui sont en bordure de la terre promise, ça se comprend, mais des villes de refuge à l'intérieur, pour nous qui sommes juifs, croyants, qui te suivons, est-ce que c'est bien utile? On va perdre de l'immobilier, on va perdre des moyens, on va perdre des choses qu'on pourrait utiliser pour le profit. Des villes lévitiques, il y en a déjà pas mal, Seigneur. Hein ? Non, non, Dieu a dit aussi à l'intérieur. Et si vous regardez la répartition des villes de refuge entre Kedesh, qui est au nord, Sichem et Hébron, avec les 3 autres villes qui sont sur l'Orient, j'aime bien utiliser le mot l'Orient et pas à l'Est, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez une ville de refuge à proximité de toutes les zones géographiques du peuple et du pays d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de distance à parcourir pour ceux qui risquaient la mort. C'est aussi un principe spirituel. C'est lié là aussi à la pensée de Dieu. Le lieu de salut est proche. Christ n'est pas loin. Le salut n'est pas loin. Le salut, la vie, alors que je risque la mort, n'est pas loin. Qui peut aujourd'hui dire, vous savez, moi je serais bien devenu chrétien, mais c'était tellement loin de moi pour pouvoir découvrir l'amour et la grâce qui se trouvent en Jésus-Christ. Ces villes de refuge sont une préfiguration du Christ. Il s'agit de fuir la mort pour trouver la vie. 6 villes pour les coupables. Nous étions tous coupables. Là où pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Je parlais avec quelqu'un dans le baptême, là, pour la préparation au baptême, je disais, ce qui est compliqué pour les enfants de chrétiens, c'est l'étape de la repentance. C'est parfois plus compliqué pour les enfants de chrétiens par rapport à ceux qui vivent dans le monde, dans des familles non chrétiennes. Parce que l'étape de la repentance, me sentir coupable de la mort de Christ, j'étais dans une famille, on a eu une culture, on a été bien élevé dans le respect, etc. On n'a pas le sentiment d'être responsable de la mort de Christ. Le sentiment de péché, c'est quelque chose qu'il faut là aussi poser, alors que ceux qui ont vécu dans le monde, ceux qui ont fait les 400 coups, ceux qui ont peut-être eu des parcours difficiles, de violence, d'agression, subie ou donnée, la repentance, ça devient clair. Et pourtant, nous sommes tous avec cette nécessité de repentance. C'est pour ça que les trois villes qui sont à l'intérieur s'adressent aussi au peuple d'Israël, à ceux qui connaissent Dieu, ceux qui connaissent là aussi le péché, les coupables, et nous sommes tous coupables. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Devant Dieu, nous sommes tous coupables. Et nous avons tous besoin de repentance, de comprendre que nous sommes dans le péché et que nous avons besoin de nous réfugier en Christ. Est-ce que aujourd'hui, cette ville de refuge qui est désignée par Dieu au peuple d'Israël, aujourd'hui nous dit, bien cette ville de refuge, c'est Jésus-Christ. Les villes de refuge, c'est Dieu qui en a parlé à Israël et dit, tu poseras ces villes-là comme des villes de refuge. De la même manière qu'aujourd'hui, il nous dit, tu poseras Christ comme seul lieu de protection et de salut. C'est le seul endroit où ma justice s'accomplira sans que tu meures. C'est le seul lieu où tu seras racheté. Le vengeur de sang, c'était le Goël en hébreu. Goël, ça donnait rédempteur. C'est le seul lieu où l'ange de la mort pourra passer et ne pas te toucher. Rappelez-vous le sang dans le livre de l'Exode posé sur les linteaux des portes. L'ange de la mort est passé et ceux qui étaient sous le sang étaient gardés de la mort. Seuls ceux qui sont dans les villes de refuge, alors qu'ils ont commis un crime, pourront être sauvés. Seuls ceux qui, pécheurs, méritent la mort, trouveront en Christ le salut et la vie. Vous rappelez ce que disait le livre de Josué ? Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'Assemblée, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. Qui est notre souverain sacrificateur, est-il écrit dans l'Épître aux Hébreux ? Christ. Et c'est la mort de ce souverain sacrificateur qui nous donne la vie. Il est notre refuge. Nous aussi, nous sommes jugés. Mais la mort du souverain sacrificateur fait que nous sommes avec lui vainqueurs par sa mort et que nous avons la vie. La localisation de ces villes de refuge, ça permet à quiconque de s'y réfugier sans difficulté. Jésus-Christ, lui aussi, est accessible, il n'est jamais loin. Le Seigneur n'est pas loin de nous, est-il écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 27. Le Seigneur n'est pas loin. Nous entendons des paroles. Comment se fait-il que Dieu ait besoin de nous parler pour nous dire « Le salut n'est pas loin !» Tu peux trouver en lui la réponse à tes besoins, à ta souffrance, à tes difficultés. Le salut n'est pas loin, le Seigneur n'est pas loin. Et pourtant, il nous parle parce que nous sommes dans cette attitude de ne pas faire le chemin jusqu'à ce refuge en Christ. Vous savez ce qui arrive à celui qui était coupable dans l'Ancien Testament et qui n'allait pas dans une ville de refuge ? Il mourait. La condamnation était sur lui. Combien, j'ai envie de dire, d'hommes et de femmes qui sont à Christ et qui ont besoin de se réfugier en lui, de trouver en lui leur sécurité, reste à l'extérieur. Alors ils sont sauvés, bien entendu, comme dit Paul, hein, comme au travers du feu. Mais tout ce qui devrait devenir vivant en eux ne le devient pas, parce qu'ils ne vont pas vers lui, parce qu'ils ne se réfugient pas en lui, de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée. Et la parole de Dieu est là comme une route qui nous conduit vers Christ, notre refuge. Hein ? Nous sommes appelés à nous diriger vers ce refuge, toujours et sans cesse. Dans l'évangile de Luc, il y a cet épisode, vous savez, des 10 lépreux qui viennent à sa rencontre et qui se tenaient à distance et qui élèvent leur voix et qui disent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». La lèpre est tellement terrible, je ne peux pas trouver d'autre réponse qu'en toi, C'est ce que disent les 10 lépreux. Et il les guérit. Est-ce que nous avons cette simplicité de foi ou cette urgence de la foi? Oh non, ça va bien, je vais faire avec. Je continuerai comme ça. Après tout, ça peut tenir. Hein? Combien de fois on a ce type de réflexion par rapport à nos vies en disant « Oh, je vais faire avec. » Et si tu venais à Christ, si tu te réfugiais en lui, si, comme les 10 lépreux, tu disais « Il y a urgence dans ma vie à ce que ceci soit réglé, à ce que tu viennes, tu guérisses, tu interviennes dans mon existence, Seigneur. » Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de quelques bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pardon ? C'est pas ça ? Ah, excusez-moi, oui. Béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Je suis heureux que vous ayez remarqué la différence. Ça en fait quelques-unes. Toute bénédiction spirituelle en Christ. Est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans ce refuge qu'est Jésus-Christ pour nous rencontrer avec lui, mais aussi le laisser agir? Il y a urgence à se réfugier en Christ. Il y a urgence de ne pas attendre pour venir à Christ. Il y a urgence à saisir toutes les bénédictions spirituelles qui sont en Christ pour moi. Amen. Amen. Le salut se trouve uniquement et seulement à l'intérieur de la ville de refuge. Connaître Jésus sur un plan intellectuel ne suffira pas. Connaître Christ sur la base de ce que mes parents m'ont dit, ça ne suffira pas. C'est le propre du livre du Deutéronome. Vos parents ont connu, maintenant c'est à vous de connaître et de savoir en qui vous voulez faire confiance. Demeurer en Christ, ça signifie confesser et abandonner son péché, avoir des intérêts dans la vie pour lesquels Jésus est en accord, vivre une vie que Jésus puisse approuver, éviter de vivre dans le compromis et ne rien tolérer dans nos vies qui nous séparent de Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui qui était à l'intérieur de la ville de refuge, il n'avait pas intérêt d'en sortir. On lui donnait une maison à l'intérieur et il pouvait y vivre et y s'y épanouir. Il vaut mieux rester en Christ. C'est tout le prologue de l'Épître aux Éphésiens. En lui, nous avons. En lui, nous avons. En lui, nous avons. Toutes les promesses, toutes les bénédictions, tout le salut, toute la grâce, tout l'amour du Père. En lui, nous les avons. Est-ce que je veux sortir de Christ pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs? Il y a un certain effort physique pour aller atteindre les villes de refuge. J'ai envie de dire, comme il y a un certain effort de foi à accomplir pour s'installer en Christ. Tout n'est pas toujours facile, mais en lui, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Il y a un effort. Il est facile de venir à Christ, beaucoup plus certainement que de parcourir les quelques kilomètres qui permettaient d'atteindre une ville de refuge. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Parfois, même pour certains, c'est trop simple. S'il m'avait demandé quelque chose de compliqué, disait Naaman, c'est ce que lui demandent ses serviteurs. Est-ce que tu l'aurais fait? Bien sûr. Mais là, c'est trop simple. Aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Toujours le Jourdain. C'est simple de trouver refuge en Christ. Il y a 6 villes. La première, Bethsaire, c'est une forteresse éloignée, ou minerai d'or, c'est le nom de cette ville. Une image un petit peu de forteresse éloignée, isolée un petit peu dans le désert. Là où il y a un monde qui n'est pas facile, il y a au milieu une ville de refuge. Ça me fait penser à une promenade qu'on a faite dans le désert de Ouarzazate au Maroc, où il y avait de la pierre, on s'appelle un erg, je crois, un désert de pierre, c'est pas du sable, c'est du caillou, désolé, il n'y a rien. On roule pendant des heures, et tout à coup, au milieu de cette pierraille et de ce désert, une oasis. Quelque chose de magnifique. Des palmiers, de l'eau, une ville qui a été construite, un petit village dans une oasis. Ouais. Christ est notre Betser. Une ville, une forteresse éloignée au milieu du désert. Ou Kedesh qui veut dire saint. Est-ce que nous sommes dans une ville de refuge qui porte le nom de sainteté? Kadosh, Kedesh. Non seulement le Seigneur nous accueille en lui, mais il nous accueille dans sa sainteté. Et il désire que nous soyons saints comme il est saint. C'est-à-dire que nous acceptions l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un peu dur le régime de Kadesh. Moi, je vais peut-être sortir demain parce que, bon, ça me demande des efforts, ça me demande des abandons, du lâcher-prise, etc. Est-ce que je veux être en Christ? Si je veux être en Christ, alors ma ville, c'est Kadesh. C'est aussi une ville qui s'engage sur la sainteté. Sichem, qui est une ville qu'on connaît bien, puisqu'elle a été la ville où Abraham, notamment, est passé, mais on en entend parler souvent, où Abraham y a dressé son premier autel, le premier autel qu'il construit pour honorer Dieu. Est-ce que nous aussi, dans notre ville de refuge, c'est là le commencement de notre relation, de notre communion? On se dit, en Christ, je commence mon chemin et ma vie. Là est ma source. Là est mon commencement. Au commencement, Dieu décida de me bénir. Et je construis un autel qui le célèbre. Hébron, une des plus anciennes cités de Canaan, qui veut dire communion, entre autres, comme traduction, c'est la ville où je suis en communion avec Dieu, avec Christ. Est-ce que c'est cela, ma ville de refuge? Ou bien est-ce que c'est Betser, qui signifie roc, lieu fort aussi, Ramoth, qui signifie élévation, exaltation, nous louons, nous célébrons le Seigneur. Est-ce que ce sont là mes villes de refuge en Christ? Dieu, en tout cas, souhaite cela. Golan, ça signifie joie. Moi, je suis toujours un peu mitigé avec Golan, parce que Golan, c'est la ville qui est en haut, enfin, la deuxième flèche, du côté de l'Orient. Et si je ne me trompe pas, ça doit être celle de la demi-tribu de Manassé qui avait dit à Moïse, nous, on veut bien rentrer pour combattre, mais on reste à l'entrée. Après, notre territoire, on a vu. Hein. Donc, je suis un petit peu mitigé avec cette demi-tribu de Manassé qui ne veut pas rentrer totalement dans la terre d'Israël, mais qui pourtant aura une ville de refuge en son sein. Ça veut dire que même si nous sommes à moitié engagés, à moitié convaincus d'entrer dans la terre promise, eh bien, même là, la grâce de Dieu est présente et il y a une ville de refuge. Alléluia! Dieu est bon! Dieu est bon! Et Christ revêt cet esprit de refuge pour moi aujourd'hui. Alors que ferons-nous en voyant cette volonté de Dieu de nous mettre en sécurité, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre attitude? La ville de refuge n'est pas loin. Christ n'est pas loin de nous. Tu as besoin ce matin que Dieu te visite, te rencontre. Tu sais que le Saint-Esprit t'interpelle, comme nous l'avons entendu dans les paroles prophétiques. Eh bien, Christ n'est pas loin. Mais tu peux attendre la semaine prochaine pour qu'une nouvelle parole prophétique s'adresse à toi. Et puis, je peux te rassurer, la ville de refuge, Christ, hein, roc, forteresse, hein, Golan, ou joie, elle sera toujours là. Christ demeurera au milieu de nous. Jusqu'à ce que nous allions nous réfugier en lui et que nous mettions notre besoin de sécurité en lui. Alors on peut attendre la semaine prochaine, c'est possible. C'est un culte de témoignage avec le petit déjeuner. Puis la semaine d'après, il y aura un prédicateur, il y aura le louange, il y aura peut-être des paroles prophétiques. Donc Dieu pourra encore m'interpeller. Ou bien je peux faire qu'aujourd'hui, j'aille me réfugier en Christ, mon refuge et ma forteresse. Seigneur, merci parce que je crois qu'aujourd'hui est jour de salut. Qu'aujourd'hui ta parole s'adresse à nous pour nous diriger tout à nouveau vers toi. C'est en toi qu'est le refuge et nulle part ailleurs. Et ton plan de salut est parfait. En Jésus-Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Et je ne veux pas passer à côté de ces bénédictions, de cette sécurité qui se trouve en toi. Mon cœur est troublé, mes besoins sont là, mais tu es ma sécurité. Tu es la réponse à tout ce qu'il y a de besoin en moi. Alors que ta parole me rencontre, que ton esprit m'aide à parcourir ce chemin pour me réfugier en toi, Seigneur. Amen.